Chapitre 2, Monsieur Lecoq. 100 francs. Sait-on bien ce qu'un Schwartz de bonne espèce peut faire avec 100 francs? J.B. Schwartz n'avait jamais eu 100 francs. S'il avait eu 100 francs, J.B. Schwartz eût monté une maison de banque dans un grenier. On est poète. J.B. Schwartz avait apporté en naissant le sens exquis du bordereau, le génie du conte de retour. Il eut un éblouissement, car la mauvaise eau-de-vie d'auberge fermentait avec l'ambition dans sa tête, et les 3 bouteilles de vin âcre attisaient en lui le feu sacré. Il lui passait à perte de vue je ne sais quel mirage. De grands bureaux où l'on marchait sur les tapis, des commis derrière des grillages, des registres verts à titre rouge, une caisse de métal damasquinée imposante, des garçons chargés à l'intérieur de chiffres miraculeusement alignés, de recettes en livrée grise, et peut-être, dans une voiture à 4 chevaux, Madame J.B. Schwartz, empanachée plus que 2 ou 3 enterrements de première classe. 100 francs. 100 francs contiennent tout cela, plus que tout cela. Le chêne énorme est dans le petit gland. « Je ne veux pas !» répéta pourtant sa vertu expirante. Et il ajouta, en faisant mine de se lever, « Pour or ni pour argent, monsieur Lecoq, je ne ferai jamais rien qui m'expose. »« Jean-Baptiste, » répliqua le commis voyageur d'un ton de supériorité, « j'ai l'honneur de vous connaître comme ma propre poche. Écoutez avant de refuser, garçon. C'est simple comme bonjour. Et outre les 100 francs, on peut avoir une petite position chez Berthier et compagnie. » « On ne donne pas 100 francs pour un rendez-vous, » objecta l'Alsacien. « Il y a autre chose. »« Si c'est la dame qui fait les frais, » insinua Monsieur Lecoq en passant la main dans ses cheveux. J.B. Schwartz était de taille à comprendre ainsi l'amour, et cet argument le toucha au vif. Monsieur Lecoq, battant le fer pendant qu'il était chaud, s'écria. « N'essaie donc pas de raisonner sur des choses que tu ne connais pas, bonhomme. Voilà l'affaire en 2 mots. Tu te noies, je te sauve, et... Maintenant, voici l'ordre et la marche. Monsieur Schwartz, le pâtissier, ferme à 9 heures. Dès qu'il sera à 9h30, tu n'auras donc plus à choisir. C'est chez Monsieur Schwartz, le commissaire de police, qu'il te faudra demander à coucher dans le grenier. » « Mais il m'a éconduit, » interrompit notre Alsacien. « Parbleu, inculquez-vous bien cette vérité, aussi loin que peuvent s'étendre les limites de notre planète. Sur la Terre, il n'est que moi qui t'intéresse à ta personne. » « C'est vrai, » balbutia J.B. Schwartz, qui avait l'eau-de-vie larmoyante. Je suis seul ici-bas. Triste exilé sur la terre étrangère. On pourrait citer une foule de textes mis en musique par les premiers compositeurs. Il n'en est pas moins vrai qu'à 10h10, le commissaire de police rentrera chez lui, sortant du cirque des frères Franconi, bâti en toile d'emballage sur la place de la préfecture. Il sera pressé et de mauvaise humeur parce que ce sera la 14e fois qu'il aura contemplé, pour les devoirs de sa charge, monsieur Franconi père en habit de général, et mademoiselle Lodoz en costume de Silmodossé. Il montra la rue de la préfecture, puis la rue Écuyère. Vous le suivrez place Fontette, puis rue Guillaume le Conquérant, jusqu'à la place des Acacias, ainsi nommée parce qu'elle est plantée de tilleuls. C'est là que madame Schwartz couche, une femme sur le retour, désagréable, mais qui rit quant à la chatouille. Vous vous approcherez du magistrat, son époux. Votre aspect lui causera une surprise pénible. Il s'écriera « Encore vous ?» Peut-être même ajoutera-t-il à cette exclamation quelques paroles d'emportement, telles que « fainéant, vanipier » ou autre. C'est son droit. Toutes les semaines, il reçoit 3 ou 4 visites de Schwartz. M'écoutez-vous, Jean-Baptiste, et... Jean-Baptiste écoutait, quoique ses paupières appesanties bâtissent la chamade. Monsieur Lecoq continua. « Attention, bonhomme, c'est ici l'important. Tu lui diras. Monsieur et respectable compatriote, le guignon semble me poursuivre dans cette capitale de la Basse-Normandie. Je me trouve dépourvu de fond par le plus grand de tous les hasards. Je comptais, en cette extrémité, sur la protection d'un de mes anciens supérieurs dans la hiérarchie du commerce parisien. Monsieur Lecoq, haut employé de la maison Berthier et compagnie, qui a fourni la caisse à secret de l'honorable monsieur Bancel. Tu saisis, hein? Ce ne sont pas des mots en l'air. Il y en a pour 100 francs, à prendre ou à laisser. Mais, poursuivras-tu, ce jeune représentant a quitté ce soir même l'hôtel du Cocardi, sa demeure, et s'est mis en route pour Alençon dans son équipage. Tout ce récit pour arriver à prononcer ces derniers mots-là. Répète. J.B. Schwartz répéta, puis il demanda. Où coucherai-je? Auriez-vous couché si vous ne m'aviez pas rencontré, Jean-Baptiste? Ne nous noyons pas dans les détails. Quand le digne magistrat vous aura prié de passer votre chemin, tout sera dit. Vous aurez gagné la somme et les droits à ma reconnaissance éternelle. Le jeune Alsacien réfléchissait. Sa pensée, un peu confuse, ne voyait absolument rien de compromettant dans la démarche insignifiante qu'on lui demandait. Ce qui l'inquiétait, c'était la grandeur de la récompense promise à un si faible travail. Monsieur Lecoq se leva et jeta sa serviette. 8 heures sonnaient. J'ai dit, déclama-t-il, maintenant l'amour m'appelle. Si je savais, murmura J.B. Schwartz, qu'il n'y a rien autre chose que de l'amour là-dessous. Je suppose, bonhomme, fit sévèrement le commis-voyageur, que vous ne suspectez ni mon honneur ni mes opinions politiques. J.B. Schwartz n'avait pas songé aux opinions politiques de Monsieur Lecoq. Il lui donnait beaucoup pour avoir sa nuit devant lui et pouvoir réfléchir. Mais Monsieur Lecoq bouclait sa malle après avoir payé sa note. Tout était prêt, rien ne traînait, sauf la canne de joie à pomme d'argent, oubliée à dessein dans un coin. Monsieur Lecoq descendit en sifflant un air. J.B. Schwartz le suivit. L'équipage du commis voyageur de la maison Berthier et compagnie, breveté pour les caisses à défense et à secret, coffre-fort, serrure à combinaison, etc., était une méchante carriole, mais son petit cheval breton semblait plein de feu. « Donnez-vous des arts ?» prononça faiblement le jeune Alsacien au moment où son compagnon mettait le pied sur le montoir. « Pas un fifrelin, Jean-Baptiste, eh ?» répondit Monsieur Lecoq. « Je ne vous cache pas que vos hésitations me déplaisent. Dites oui ou non, bonhomme. »« Si je faisais la chose, » demanda J.B. Schwartz, « où vous rejoindrais-je » « Dites-vous oui ?»« Non. »« Alors que le diable t'emporte, Normand d'Alsace, à l'avantage. » « Mais je ne dis pas non. » Monsieur Lecoq prit en main les rênes. Schwartz faisait pitié. Pour le même prix, il eût vendu la chair de ses bras, ses dents qu'il avait longues, sa forêt de cheveux ou peut-être le salut de son âme. Mais il avait peur de mal faire, dans le sens que la loi attache à ce mot. « Gare !» cria Monsieur Lecoq qui fit claquer son fouet. « Je dis oui !» balbutia Schwartz avec abattement. Lecoq se pencha vers lui et lui caressa la joue. « Petite bagasse !» fit-il en prenant pour une fois le pur accent de la canebière. « Nous y voilà, Jean-Baptiste, eh ? Ta nuit ne sera pas longue. À 2 heures du matin, tu sortiras de Caen par le pont de Vaucelles. Tu feras une lieue de pays en te promenant sur la route d'Alençon. À 3 heures juste, je serai en avance du village d'Allemagne, dans le bois qui est à droite de la route. À bientôt, bonhomme, et dis ta leçon, ni plus, ni moins. Hu, Coquet !» Coquet vit feu de 4 pieds et partit comme un trait, pendant que la fille, les garçons, maman brûlée, papa brûlé et les petits brûlés souhaitaient à grand cri bon voyage. Les soirées de juin sont longues. Il faisait encore jour quand Monsieur Lecoq et son fringant bidet breton quittèrent la cour du Coquardi, laissant ce malheureux J.B. Schwartz au labeur de ses réflexions. Monsieur Lecoq avait le cure-dent à la bouche et claquait son fouet comme un vainqueur en descendant les petites rues qui mènent à la rivière. Oh le guéluron ! Il souriait aux fillettes. Il envoyait des baisers aux marchandes sur le pas de leur porte. Il provoquait les gamins et disait « Gare là, papa !» aux gens qui se dérangeaient pour le laisser passer. Et figurez-vous qu'on le connaissait bien. La caisse, vendue par lui à Monsieur Mansel, le riche banquier, était célèbre dans la ville de Caen. Une caisse fée qui défiait les voleurs et vous saisissait le bras du coquin comme un gendarme. Paris ne s'est qu'inventé. Le coffre-fort coûtait cher. Les négociations avaient duré du temps. D'autres Richards se tâtaient déjà pour acquérir un meuble si utile. À Caen, on ignorait le nom de Berthier et compagnie. On disait tout bonnement la caisse Lecoq. Monsieur Lecoq était un jeune homme illustre. On disait sur le passage de la carriole, « C'est Monsieur Lecoq qui s'en va pour vendre d'autres caisses. Celui-là n'est pas embarrassé. Il n'a affaire qu'au Calais. » Quand Monsieur Lecoq sortit de la ville, à la Brune, par le pont de Vaucelles, il avait des centaines de témoins prêts à constater son départ. Cela prouve peu, puisque, en définitive, on peut revenir. Mais les circonstances insignifiantes sont comme les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Tant que le crépuscule dura, Monsieur Lecoq maintint son bidet au grand trot. Il adressa la parole à tous les charretiers qu'il croisa. La nuit venue, à 3/4 de lieue des faubourgs, il mit pied à terre à la porte d'une auberge pour allumer ostensiblement ses lanternes. « Une jolie biquette !» dit l'aubergiste en tapant la croupe de Coquet. « Ça va trotter lui même pas jusqu'à Alençon !» répliqua Monsieur Lecoq. « Et À 500 pas de l'auberge, il y avait un coude et un taillis de châtaignier s'étendait sur la droite. Monsieur Lecoq arrêta brusquement ce cheval dès qu'il eut tourné le coude. Il regarda en avant, écouta en arrière. La route était déserte. Monsieur Lecoq sauta hors de sa carriole. Il prit Coquet par la bride et le mena en plein taillis par un petit sentier où la voiture avait peine à passer. Ce sentier lui-même fut abandonné à la première éclaircie. Coquet, violemment attiré, fit trou dans le taillis et la carriole se trouva hors de la voie. En plein jour, on l'aurait vu aisément, mais la nuit, tout ce qui n'est pas dans le chemin tracé disparaît sous bois. Monsieur Lecoq détela son cheval, fit avec lui 200 ou 300 pas dans le taillis, et l'attacha enfin au plus épais du fourré. Cette besogne accomplie, il revint à la carriole. En un tour de main, son glorieux pantalon à carreaux fut remplacé par un pantalon d'ouvrier en cotonnade bleue, tout usé aux genoux. Au lieu de son élégante jaquette de voyage, il mit une blouse de toile et se coiffa d'un gros bonnet de laine rousse qu'il rabattit sur ses yeux. Singulier accoutrement pour un rendez-vous d'amour. Monsieur Lecoq ôta ses bottes. Il chaussa des pantoufles de lisière et par-dessus de bons souliers ferrés. Nous affirmons que sa maîtresse elle-même aurait pu passer près de lui sans le reconnaître. Il se mit en marche. C'était en perfection un épais balourd du Calvados, demi-paysan, demi-citadin. Monsieur Lecoq regagna la route et piqua vers Caen à pas pesant. Il était 9h30. À 10h moins quelques minutes, un homme sortit tout à coup de la boutique d'un marchand de curiosités situé sur cette place des Acacias, au quartier Saint-Martin, où demeurait le commissaire de police Schwartz. Cet homme portait une blouse de paysan et un bonnet de laine rousse. Sa marche ne faisait point de bruit parce qu'il était chaussé de lisière. Il traversa la place rapidement et prit sous un banc une paire de gros souliers ferrés. Comme 10h sonnait, le même homme, chaussé en patou et faisant sonner contre le pavé les gros clous de ses galoches, arriva sur la place de la préfecture où la musique des frères Franconi hurlait ses dernières notes. La représentation s'achevait. Le patou, qui avait un pantalon de cotonnade bleu usé aux genoux, une blouse grise et son bonnet de laine, s'assit sur une borne au coin de l'église. Le commissaire de police Schwartz sortit du cirque un des premiers et se dirigea tout de suite vers le quartier Saint-Martin. Le patou le suivit à distance. À moitié chemin de chez lui, dans la rue Guillaume le Conquérant, le commissaire de police fut accosté timidement par un pauvre garçon qui sembla l'implorer. Le patou pressa le pas. Le commissaire de police répondit au pauvre air d'un ton d'impatience et de dureté. « On ne vient pas dans une ville ainsi sans savoir, je ne peux rien pour vous. » Aussitôt, J.B. Schwartz, avec plus d'aplomb qu'on en aurait pu attendre de ses récentes perplexités, plaça la leçon apprise. Il parla de Monsieur Lecoq, son protecteur, de la caisse Mancel et du malheureux hasard qui faisait que, justement, ce soir même, Monsieur Lecoq était en route pour Alençon. Le commissaire de police répliqua « Je ne connais pas votre Monsieur Lecoq, et tout cela ne me regarde pas, laissez-moi tranquille. » Ce que fit J.B. Schwartz, qui avait gagné 100 francs. Le patou, arrêté dans l'ombre d'un porche, avait écouté cette conversation fort attentivement. Quand le commissaire de police et notre J.B. Schwartz se séparèrent, il ne suivit ni l'un ni l'autre et s'engagea dans le réseau de petites rues tortueuses qui s'étend à droite de la place Fontaine. Il marchait rapidement désormais et avait l'air fort préoccupé. Un cabaret restait ouvert au fond du cul-de-sac Saint-Claude. Le patou mit son œil au carreau fumeux que protégeaient des rideaux de toile à matelas. Il entra. Le taudis était vide, sauf un homme qui comptait des sous derrière le comptoir. « Sommes-nous prêts, papa Lambert ?» demanda Monsieur Lecoq, que chacun a reconnu sous sa blouse. Au lieu de répondre, le cabaretier dit « Avez-vous la chose, Toulonnais ?» Monsieur Lecoq frappa sur un objet qui faisait bosse sous sa blouse. L'objet rendit un son métallique. Le cabaretier éteignit sa lampe et ils sortirent tous deux.